Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on est en direct pour commenter l'actualité des Gilets jaunes, de l'acte 9 qui aura lieu demain à Paris et à Bourges. Le Monde titre aujourd'hui « Gilets jaunes de France face à face ». On assiste à une véritable montée de la violence. Dites-nous ce que vous en pensez, la société de plus en plus violente. On en parle avec Jean-Luc Touly, président du FRIC, le Front Républicain contre la Corruption. Virginie Leguet, chef adjoint au service politique de Paris Match, qui devrait arriver dans quelques secondes. Éric Revel, journaliste, éditorialiste, bonjour.
Bonjour.
Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de Regards. Vous avez publié « Ils ont tué la gauche » aux éditions Fayard. On pourra revenir également sur les 80 km/h qui étaient à l'origine l'une des demandes des Gilets jaunes. De nombreux radars ont été vandalisés. Alors, est-ce qu'il faut revenir sur cette mesure ? On va en parler dans un instant. On va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Jean-Luc, on va commencer avec vous.
Ben moi, c'est les trois décisions des conseils de prud'hommes du mois de décembre qui sont revenues sur le barème fixé par la loi Macron dans les salariés qui sont licenciés sans cause réelle et sérieuse, en se basant sur différentes conventions européennes. Et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Moi, qui étais conseiller prud'homal pendant 25 ans, je trouve que cet aspect de la loi Macron...
Parce qu'il faut rappeler, oui, que la loi Macron avait fixé un plafond, on ne pouvait pas aller au-delà d'un certain
quelqu'un
montant.
Quelqu'un qui est licencié après 40 ans d'ancienneté, qu'il ait 20 ans d'ancienneté ou 40, c'est la même chose, c'est 20 mois maximum.
Donc ça veut dire que la loi était mal faite, puisqu'on arrive à la contourner.
Ah ben, il y a des recours d'ailleurs, des différentes organisations syndicales, devant la Convention européenne, enfin devant un certain nombre de juridictions, et devant l'OIT.
Oui. Pierre, votre coup de cœur, coup de gueule ?
Plutôt un coup de cœur à une institution, le défenseur des droits.
Oui.
Je trouve que voilà un nouveau président un nouveau défenseur des droits qui reprend un peu de couleur. Et là, il vient de se saisir d'une saisine justement des Gilets jaunes qui ont interpellé le défenseur des droits sur la question de l'atteinte aux libertés de manifester. Plusieurs Gilets jaunes ont été arrêtés, plusieurs Gilets jaunes ont été inculpés d'ailleurs, et sans doute à raison. Mais voilà, il y a des mesures préventives qui paraissent assez anormales dans notre constitution, puisque c'est constitutionnel le droit de
Jacques
manifester.
Toubon.
Jacques Toubon, oui. Il faut rappeler le bilan, 5000 gardes à vue, 4000 répressions pénales, plus de 200 manifestants en prison. Des milliers de blessés, des milliers de mains arrachées. Et puis aujourd'hui, la réponse du gouvernement.
Des milliers de mains arrachées, vous y allez pas.
Pardon, j'ai dit des milliers
fort,
de blessés, et donc certes, quelques mains arrachées, pardon, excusez-moi, je suis allé un peu vite. Et puis aujourd'hui, la réponse du gouvernement, alors qu'on attend une réponse politique, on voit que la réponse, elle est encore sur le terrain du répressif, alors qu'on a déjà un arsenal juridique qui est censé être à la hauteur pour répondre justement aux violences.
C'est un mouvement hors norme quand même.
C'est un mouvement hors norme, mais il ne faut pas faire de ce mouvement une généralisation, une généralité de ce qu'est ce mouvement. Il y a les Gilets jaunes d'un côté, les revendications. D'ailleurs, au démarrage du mouvement, quand même, on peut rappeler l'unanimisme qu'a suscité ce mouvement, que ce soit du côté politique, que ce soit du côté médiatique. Tout le monde se disait, oui, il y a une colère dans le peuple. Et maintenant, effectivement, que s'exprime une violence, elle doit être sans doute condamnée et punie quand il y a des violences et qu'il y a des atteintes aux personnes. Il ne faut pas faire d'une généralité de ce mouvement, et c'est ça qui me frappe en ce moment, c'est qu'aujourd'hui, la seule réponse du gouvernement, c'est la réponse répressive. Et d'ailleurs, c'est le problème, c'est qu'à chaque fait, aujourd'hui, le gouvernement nous sort une nouvelle loi qui est une loi répressive, on l'a vu depuis le début du quinquennat.
Mais vous, ça ne vous gêne pas, les violences dans les rues, les forces de l'ordre sont
pour
maintenir l'ordre.
Si vous voulez, vous avez raison.
Quand on voit le chaos,
la seule violence légitime, elle vient de l'État. C'est comme ça. Ce qui me gêne aujourd'hui, c'est de voir que. Cette violence, elle est exprimée aussi parce que le gouvernement l'a légitimée. Rappelez-vous une chose, on a dit que le gouvernement avait reculé pour la première fois avec les Gilets jaunes. Souvenez-vous, Notre-Dame-des-Landes. Pourquoi le gouvernement a reculé si ce n'est parce qu'il y a eu des faits de violence à Notre-Dame-des-Landes ? Pourquoi aujourd'hui le gouvernement a reculé si ce n'est parce que justement il y a eu des faits de violence sur les Champs-Élysées ? Le gouvernement a décidé d'agir, a commencé à comprendre la hauteur des revendications et la hauteur de cette mobilisation que parce qu'il y a eu des violences. S'il n'y avait pas eu de violence, le gouvernement aurait continué en disant regardez,
tout le monde n'a pas la même explication.
Il y a aussi une modification.
Virginie Leguet vient d'arriver.
Il ne s'agit pas de légitimer la violence, il s'agit de comprendre pourquoi la violence s'exprime.
Oui, mais c'est le mais, moi, qui toujours me gêne.
J'ai pas dit mais, là.
Alors, attendez, Éric va répondre.
Je vais répondre. Bon, d'abord, je trouve que c'est bien de saluer le travail de Jacques Toubon, parce que On a besoin d'institutions fortes en ce moment, et si ça peut être celle-là qui joue le rôle d'amer pour la démocratie qui est en train de nous filer entre les doigts, c'est pas plus mal. Pour le reste, cher ami, attention. Je pense que dès l'instant où on légitime d'une façon ou d'une autre la violence, on n'est déjà plus, me semble-t-il, dans une démocratie.
Mais vous m'avez, bien entendu, je n'ai pas légitimé la violence, j'ai dit que c'était le gouvernement qui avait rendu cette violence.
Je veux dire, moi, mon coup de gueule, il est très simple. C'est la spirale de haine et de violence, justement, qui est en train de se coller à la société française en ce moment. Moi, je ne suis pas en train de chercher des responsabilités. Il y en a un qui a tapé en premier, il y en a un autre qui a répondu en second. Moi, ce n'est pas mon souci. Ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, on a une représentation nationale qui est taguée dans ses permanences, qui est vilipendée, qui est montrée du doigt. Sans Assemblée nationale, il n'y a pas de démocratie en France. Elle a été élue il y a 2 ans, on est pour, on est contre, ce n'est même pas le sujet. Elle est en place. Cette haine, elle est partout. La violence, elle est partout. Les policiers et sont parfois en légitime défense, parfois ils le sont peut-être moins. Le boxeur qui s'amuse enfin d'une manière, mais que moi je n'avais jamais vu dans aucune manifestation. Je suis un peu plus âgé que vous. J'en ai fait des manifestations, je vous le dis, ça peut paraître bizarre, mais j'en ai fait. Quand on n'est pas révolté à 20 ans et qu'on l'est encore à 40, c'est qu'on n'a pas de cœur. J'ai plus de 40 ans, j'ai fait des manifestations. Mais on assiste à un déchaînement de violence et de haine dans ce pays dont la démocratie va sortir extrêmement affaiblie. Et je rajoute un truc qui va peut-être vous choquer, c'est que sans force de l'ordre, il n'y a pas d'exercice de la démocratie. Parce que sans force de l'ordre, avec ce que ça peut impliquer, et encore une fois, je veux bien l'entendre, de dérapage, sans force de l'ordre, ça s'appelle l'anarchie. Donc moi, je habite dans une république, je suis républicain, et j'estime que on doit absolument, évidemment, continuer à avoir le droit de manifester, de revendiquer. Ça fait 30 ans que les gens qui aujourd'hui se plaignent n'ont pas été écoutés. Mais attention, quand on commence à mettre des « mais » dans ces phrases, on légitime le début de l'affaiblissement de la démocratie.
Alors moi, je ne vais pas dire « mais ».
Alors je vais dire 0826 300 300. Je vous rappelle le numéro auditeur de Sud Radio si vous voulez réagir à ce débat, à cette violence. Alors Virginie avait d'abord demandé la parole.
Je vais dire une petite phrase simplement pour revenir sur les propos.
Parlez dans le micro, Virginie.
De mon ami Pierre Jacquemin. Quand il dit que le gouvernement n'a réagi qu'à la violence, chronologiquement, ça peut être vrai. Mais je voudrais rajouter une chose qui me paraît fondamentale. Le gouvernement a aussi réagi et peut-être cédé parce que ce mouvement des Gilets jaunes était soutenu par la majorité des Français et qu'il y avait non seulement ceux qui étaient dans la rue, mais il y avait tous ceux qui n'étaient pas dans la rue, mais qui soutenaient ce mouvement. Donc ça faisait beaucoup de Français à qui il fallait apporter une réponse. Donc lorsqu'il s'est exprimé pour annoncer son train de mesures, ses 10 milliards de pouvoir d'achat, c'était aussi à cause de ça qu'il était une raison politique très importante.
Oui, c'est... Oui.
Deux choses. D'abord, je vais dire pas mais, mais et. Comment se fait-il que M. Benalla, le 1er mai, a quand même fait des actes de violence qu'il n'a pas rendu, enfin récemment rendu ses passeports, comment se fait-il que la justice n'a pas été aussi rapide que pour le boxeur ? C'est pas mais, c'est et. Moi, ça me pose problème. Deux poids, deux mesures.
Je veux rendre hommage à Jacques Toubon,
malgré sa rémunération et à peu près équivalente à Chantal Jouanneau, où j'ai vu Benjamin Griveaux hier demander sa démission, vous voyez, pour qu'elle perde son poste. Dans quel monde on vit ? Quelle violence ? Il faut condamner toutes les violences.
On ne peut pas tout mélanger non plus.
Non, je ne mélange pas. Je peux me permettre une chose quand même, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à nous demander...
C'est deux France face l'une à l'autre.
Non, mais on a souvent tendance à se demander...
C'est vraiment deux France face à
l'une du monde. C'est la une du monde. Souvent, l'angle par lequel on prend les gilets jaunes dans la période où il y a une montée, c'est vrai, de la violence, on nous demande de condamner la violence. Évidemment, je la condamne, la violence. Mais à un moment donné, est-ce qu'on peut nous poser aussi la question, est-ce que vous condamnez la violence qui s'exprime et qui s'exerce sur les pauvres retraités qui aujourd'hui perdent du pouvoir d'achat, sur les infirmières qui aujourd'hui sont maltraitées, sur les enseignants aujourd'hui qui sont maltraités? Voilà, est-ce qu'on nous demande aussi de condamner cette violence? À un moment donné, je suis d'accord pour condamner la violence quand elle s'exprime sur des faits, sur des objets, sur des humains. C'est évident qu'il faut la condamner.
Mais à un moment donné, il faut aussi. Il y a une énorme différence.
C'est que la violence sociale. La violence sociale, aujourd'hui, quand on n'a plus rien.
La violence sociale dont vous parlez, dont je suis extrêmement conscient, bon, chacun a ses origines et vient des milieux qui ne sont pas forcément des milieux très bourgeois, c'est mon cas. Donc cette violence sociale, je la connais par cœur et depuis 50 ans. Bon, elle n'a pas été résolue et elle déborde aujourd'hui et c'est bien normal. Je le dis tranquillement. Mais la violence sociale, elle peut se résoudre par du dialogue. Il n'a pas été suffisant, quel que soit le gouvernement. Elle peut se résoudre par le dialogue. S'il y a une question de pouvoir d'achat, et il y en a une très forte dans ce pays, alors il faut entamer des dialogues sur des bases de négociation fortes, en se servant d'ailleurs des corps intermédiaires qui ont été balayées d'un revers de main, cette violence sociale, elle apporte, à mon sens, une réponse dans le dialogue. La violence dont vous parlez, celle de la rue à laquelle on assiste, encore une fois, et moi je ne suis pas là pour comptabiliser les points, pour dire c'est lui qui a commencé ou c'est lui qui a tapé plus fort, c'est un scandale. Cette violence-là, elle ne peut pas être réglée par le dialogue, elle ne peut être réglée, à mon sens, que par un crescendo de violence. Et ce crescendo de violence, cher Pierre, il aboutira à une
chose.
Vous avez
raison.
Il aboutira à une chose, c'est qu'on mettra en danger notre pays, on mettra en danger notre démocratie. Pourquoi ? Personne ne le sait. Donc attention, attention,
vous
ne pas faire l'amalgame entre une violence sociale et la violence de la rue qui est terriblement, terriblement
plus
dangereuse.
Vous avez raison, mais on touche là à l'amateurisme, en tout cas le manque de professionnalisme de ce gouvernement. C'est-à-dire que s'il avait anticipé et s'il avait respecté les règles de la Ve République, je suis désolé, aujourd'hui, dans les revendications des Gilets jaunes, une partie des députés de la majorité, de l'opposition, que ce soit de droite comme de gauche, il y avait des amendements qui ont été déposés dans le cadre parlementaire, qui auraient pu être discutés, qui auraient même pu être acceptés.
Mais là, je n'ai rien à rajouter.
Tous les amendements ont été refusés. Donc ce gouvernement a refusé le débat parlementaire, il refuse le débat avec les organisations syndicales, et en plus, il refuse le débat avec les élus locaux. Quand vous vous coupez du monde entier qui est connecté avec les réalités locales, forcément, vous avez un débordement de la population qui, en plus,
c'est mais fait... c'est pas la population, encore une fois. S'il y a quand
il y a
même
une bonne partie de la population qui soutient quand même le.
Qui soutient de la manifestation. Des manifestations, il y avait 300 000 personnes dans la rue.
Oui. Et là, on l'a évoqué hier dans un des sondages. J'émets des réserves sur la façon dont on exprime les sondages. C'est-à-dire qu'on a 30% de Français qui disent je suis sympathisant des Gilets jaunes, 30% de Français qui disent je soutiens le mouvement des Gilets jaunes. On ne peut pas dire qu'il y a 61% de Français qui soutiennent le mouvement des Gilets jaunes. S'il y a eu deux questions, c'est bien qu'il y a une nuance. Donc il y a des gens qui comprennent le mouvement des Gilets jaunes, mais qui ne soutiennent pas forcément les actions qui sont en train d'être menées un peu partout. Juste vous citer Carl Olive ce matin, qui se demande, qui est le député maire, de Poissy, et qui dit dans quel pays on voit la ville de Bourges qui se prépare comme à l'arrivée d'un cyclone. On est en train de démonter les horodateurs, on est en train de démonter tout le matériel urbain de la ville. On vit où ? On est où aujourd'hui ?
Sans doute, on doit s'interroger sur cette crispation, ce moment de colère qui s'exprime et qui va crescendo. Mais parce que, pardon, on va sans doute en parler tout à l'heure, mais le grand débat, sans doute, faut-il du débat ? On l'a dit tout à l'heure, il faut du débat, il faut de la démocratie
participative. Mais sauf que les Gilets jaunes n'en veulent pas de ce grand débat.
Ils n'en veulent pas parce qu'ils ont besoin de réponses immédiates. Vous voyez bien qu'on n'a pas besoin de savoir ce que vont donner ces débats pour savoir qu'aujourd'hui, les gens ils vivent dans la précarité, que donc ils ont besoin de réponses en termes de sécurité professionnelle, de sécurisation des parcours professionnels, en termes d'augmentation du pouvoir d'achat, en termes de revalorisation des métiers aussi. De formation, c'est ça les réponses. Et aujourd'hui, le gouvernement est en incapacité de répondre à tout ça, c'est bien ça le problème.
On se retrouve dans un instant, vous aurez la parole Virginie, 0826 300 300, à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi en direct pour commenter l'actualité dominée encore une fois par les Gilets jaunes, par l'acte 9. Le Monde, le quotidien Le Monde qui va paraître dans quelques heures, publie à sa une... une grande enquête, Gilets jaunes de France face à face. C'est en tout cas ce qui est en train de se profiler depuis quelque temps. On parle de cette montée de l'hyperviolence. Virginie, vous n'avez pas eu le temps de faire votre coup de cœur, mais qui va entraîner un coup de gueule que j'ai déjà fait. Allez-y.
Et je peux pas parler d'abord un petit peu de la violence ?
Si. Oh, mais si, parce que ça va rejoindre. Vous voulez rendre hommage à Corinne Maziero, donc qui est capitaine Marleau.
Je voulais rendre hommage à Corinne Maziero, que j'aime beaucoup et dont j'apprécie beaucoup le franc-parler, l'honnêteté sincère. Je crois qu'elle a eu un parcours extrêmement compliqué il y a quelques années. Elle est en train de ne renoncer à rien et en même temps de devenir une actrice extrêmement célèbre. Elle n'hésite pas à parler de ce par quoi elle est passée. Et je voulais, presque sur un ton de la plaisanterie, dire que j'ai été très sensible à la façon dont elle raconte comment elle a rencontré celui qui partage sa vie depuis 16 ans, qui je crois est un acteur. Elle l'a croisé dans une manifestation et elle lui a envoyé un texto dans les minutes qui suivent en disant « Où tu veux, quand tu veux ?» Le « Où tu veux, quand tu veux ?» C'était le soir même, et depuis le soir même, ils sont depuis 16 ans ensemble. Et je voulais dire chapeau.
C'était avant « Balance ton porc » ou tout ça, parce que maintenant, c'est plus possible.
Dans le même coup de cœur, parce que Corinne Maziero elle-même a traversé des années difficiles et même parfois dans la rue, je voulais parler de ce livre qui s'appelle « Belleville au cœur » de Christian Page, qui raconte justement l'histoire d'un SDF qui est tombé dans la rue parce qu'il a perdu sa femme, sa fille, son boulot, son appartement et que tout ça s'est enchaîné assez rapidement. Et c'est un petit bouquin qui se lit vite, qui se lit facilement, mais qui pourrait faire réfléchir chacun sur la fragilité qu'il y a d'un côté et à pouvoir passer de l'autre côté. Voilà.
Juste, moi, j'ai fait le coup
Mais je voudrais quand même parler de la violence.
Oui, on va en parler, mais Corinne Maziero, moi, je la trouve, irresponsable à la une de Télérama, et c'est Télérama qui est irresponsable, qui la met en Marianne, un peu dénudée, mes vœux pour 2019, la révolution. Bah non, la révolution, c'est pas romantique.
C'était le titre du livre d'Emmanuel Macron, quand même.
Par les temps qui courent. Ouais. C'est pas, voilà, je trouve pas ça bien de faire cette une-là, vu ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire de la violence qui est en train de monter un petit peu partout.
Et pourquoi elle est toute nue pour parler de la révolution?
Parce qu'elle est en Marianne.
C'est pas une voilà. femelle.
C'est Marianne. Donc voilà, mais je vous redonne la parole, Virginie, sur la violence.
Alors,
oui, vous avez perdu le fil de votre pensée.
Du tout.
Non, mais cette France face à face.
Corinne Maziero, c'est vrai que c'est une femme très engagée qui revendique d'ailleurs d'être un peu gilet jaune.
Mais c'est vrai que cette montée de la violence, on a quand même un déferlement d'attaques, d'injures qui envers les institutions. Les journalistes, c'est le plus souvent anonyme, en plus sur les réseaux sociaux.
Bah justement, pourquoi on en parle autant ?
On voit que la...
N'en parlons pas ?
Que la Charente Libre, qui est sortie sous protection policière, 40 gilets jaunes qui avaient décidé de s'en prendre à la Charente Libre et d'empêcher la diffusion, on est en train quand même de basculer dans quelque chose qui est assez effrayant.
Je voulais juste dire quelque chose pour pas qu'on perde le fil. Oui. La violence dont parlait tout à l'heure... Pierre, et dont il attribuait la responsabilité à l'exécutif, en disant qu'il n'avait pas été à l'écoute et que cette violence, il en était l'auteur. Moi, je voudrais quand même souligner l'incroyable responsabilité des oppositions dans l'entretien, l'exaspération de cette violence, et les tweets, notamment de Dupont-Aignan, Marine Le Pen, et en particulier de... Jean-Luc Mélenchon, qui m'ont incroyablement choqué. Jean-Luc Mélenchon est un élu de la République et il ne peut pas se permettre d'encourager comme il l'a encouragé Éric Drouet, qui appelait à entrer dans l'Élysée, pour lequel il a déclaré sa fascination. Moi, ça m'a vraiment choqué. Et je trouve que là, les oppositions ont joué un rôle extrêmement délétère et extrêmement dangereux, parce que attiser une violence dont on ne sait pas jusqu'où elle va aller, c'est proprement irresponsable.
On a un auditeur qui nous dit, si le gouvernement, ce que disait Pierre Jacquemin, avait apporté une vraie réponse politique et non de l'enfumage. Si on ne répondait pas par un débat pour gagner du temps, nous n'en serions pas là. La violence est provoquée par le pouvoir et certains médias. Madame Expert, je suis contre la violence, mais point de suspension. Voilà.
C'est un fan de Pierre Jacquemin.
Voilà, c'est un fan de...
Non, mais je pense qu'on a tous, ce sentiment-là. Mais... Évidemment, on aimerait qu'il n'y ait pas de violence. Évidemment, on aimerait qu'à un moment donné, les revendications qui s'expriment du peuple, on ne peut pas à la fois s'étonner que le peuple déserte les urnes, et en même temps, quand il a envie de s'exprimer, quand il a envie de demander des choses, quand il a envie de discuter, de dialoguer avec les élus de la République, on lui dit, écoutez, non, il n'y a rien à voir, les ISF, on ne va pas revenir dessus. Et donc, à un moment donné, on ouvre un débat en plus où on commence à mettre...
Dites, c'est extraordinaire ce que vous dites.
Éric Revel.
Encore une fois, il ne s'agit pas d'être pro ou d'être pour ou d'être anti, mais enfin, il y a une Assemblée nationale qui a été élue. Oui. Démocratiquement,
qui l'a nié aujourd'hui l'Assemblée nationale, puisqu'aujourd'hui même les parlementaires d'opposition, ils ne sont même pas considérés, et les seuls qui sont dans la majorité, ils votent tous d'un seul bloc.
Dites-moi que vous êtes pour la proportionnelle pour élire des députés, par exemple.
Ah bah moi,
mais ne me dites pas que vous êtes pour un référendum révocatoire sur l'Assemblée nationale, parce que est-ce que vous voyez dans quel truc on rentre? C'est-à-dire tous les six mois, moi mon député me plaira pas, je dirais hop, référendum, les gars, venez avec moi.
Cher Éric Revel, vous noterez quand même, j'ai noté un jour une femme gilet jaune qui a dit, et ça m'a interpellé, écoutez, nos gouvernants ont bien fait passer une loi qui permet de faciliter les licenciements dans les entreprises. Pourquoi on ne permettrait pas le licenciement d'un élu quand il ne répond pas aux attentes qui ont été celles qui se sont exprimées au moment d'un vote? Je suis désolé, le référendum révocatoire, pourquoi pas s'il est encadré? Évidemment, si à un moment donné, les élus font le contraire de ce pourquoi ils ont été élus, ou s'ils ne donnent pas satisfaction à la population,
pourquoi les habitants ne pourraient pas dire non? Est-ce qu'il ne faudrait pas que cette révocation vienne par ceux-là même qui l'ont élu, plutôt, parce que chaque député a été élu dans sa circonscription? On est bien d'accord.
Oui, mais il n'y a pas que les élus députés.
Donc
les
pourquoi locaux, tout d'un coup, disons, la France entière s'emparerait du sort d'un élu qui a été élu dans sa circonscription et qui convient peut-être
mais
à sa circonscription?
Mais ça ne sera même pas une garantie, parce que Patrick Balkany, avec toutes les casseroles qu'il a, il a été réélu. Alors c'est du clientélisme, mais il a été réélu. Donc il n'y a pas de solution miracle non plus.
Mais il faut respecter le scrutin, et le scrutin est ce qu'il est, mais une fois que les gens sont élus, ils sont élus. Alors moi, on peut critiquer les électeurs, mais moi je ne les critique pas.
On l'a vu dans l'histoire, le phénomène de peur. Des exécutifs. On essaye de jouer la peur. Je ne parle pas des médias, etc. Mais plus on parle de ça, ça fait le jeu de qui? ça fait le jeu peut-être des extrêmes, et ça fait le jeu de celui qui est en place. Mais ça ne fait pas le jeu d'une véritable démocratie.
Véritable démocratie si ce n'est pas l'élection ?
Il n'y a pas de déni de la violence. Non. Il y a là de la violence, mais il n'y a pas que ça non plus. Oui. Mais de parler que de ça, ça fait le jeu de qui, ça ?
Mais qu'est-ce qu'on... Voilà. Enfin, oui, mais...
Je n'ai pas une solution, je n'ai pas de réponse.
Valérie, vous avez raison, là. Qu'est-ce que c'est qu'une véritable démocratie ? C'est aussi l'interrogation que posent les Gilets jaunes. Je ne dis pas que le RIC va répondre à toutes les attentes et tous les besoins en termes de rénovation de la démocratie. On voit bien quand même que la Ve République est arrivée à bout de souffle, qu'aujourd'hui, il faut rénover nos institutions et qu'à un moment donné, c'est vrai que notre système parlementaire, qui est d'ailleurs totalement balayé par l'Élysée, ne nous permet pas aujourd'hui de se sentir représenté au sein des grandes institutions.
Allez, on se retrouve dans un instant. On aura Cynthia en ligne avec nous, 0800 26 300 300. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
De retour avec vous dans le studio de Sud Radio, avec vous jusqu'à midi en direct, avec Jean-Luc Touly, président du FRIC, le Front Républicain contre la Corruption, Virginie Leguet, chef adjoint au service politique de Paris Match, Éric Revel, journaliste, et Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de Regard. Et vous avez publié « Ils ont tué la gauche » aux éditions Fayard. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est le 11 janvier. Souvenez-vous, il y a 4 ans, un peu partout en France, nous étions réunis pour combattre le terrorisme. C'était donc 4 jours après le 7 janvier, les dirigeants du monde nous accompagnaient pour exprimer la solidarité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on en est loin de cette concorde.
Et on applaudissait les forces de l'ordre. Ouais. On disait, ils sont les garants de la sécurité démocratique et de la sécurité des Français. Mmh. Bon,
mais
voyez
ce qu'il y a quand même.
Mais c'est super intéressant. C'est-à-dire que les forces de l'ordre, elles sont quand même là pour nous protéger, contre des agressions extérieures et notamment terroristes, puisque c'est cette guerre-là qui a été déclarée au pays. Mais encore une fois, j'insiste, on n'est pas là pour compter les points, mais j'insiste sur le fait que, méditez bien cette réflexion, s'il n'y a plus de forces de l'ordre, si l'ordre, d'une manière ou d'une autre, n'est pas tenu dans un pays, dans quoi bascule un pays ? C'est quand même ça la question.
Mais c'est ce que veulent certains, non ?
Oui, d'accord, mais qui disent, alors là, on dépasse les revendications légitimes des Gilets jaunes. On est pour
un policiers, qui sont concernés aussi.
Bien sûr, on est pour un basculement vers autre chose, mais que les gens le disent, qu'on sache pourquoi voter ou pourquoi à quoi s'attendre.
Sans doute l'ordre est-il nécessaire, il n'y a pas de sujet là-dessus. En revanche, on a un pouvoir politique, on vit dans un système républicain où à un moment donné on attend aussi des politiques qu'il y ait des actions, qu'il y ait des choses qui changent radicalement la donne et qui changent radicalement la vie des gens qui sont dans une misère et une souffrance énorme. Et aujourd'hui, on est face à un gouvernement dont on ne sait plus, il ne dirige plus. On voit bien, il y a eu 5-6 interventions du président de la République et du Premier ministre pour ne rien dire. Et le Premier ministre arrive encore cette semaine pour nous dire on organise un grand débat, mais je reviendrai la semaine prochaine pour vous expliquer comment va se passer le grand débat, et je reviendrai sans doute la semaine d'après pour vous expliquer comment on fera les conclusions.
C'est qu'il n'y a pas de ligne politique.
On ne fait plus de politique. Ce gouvernement ne fait plus de politique. Donc l'ordre, bien sûr.
Mais la réponse est par SMS. Alors que non, mais
il a réfuté ça. Il a dit qu'il avait eu
en tout cas il y a eu des contacts. Mais vous voyez, comment voulez-vous? Il faut être exemplaire quand on dit il faut l'ordre public.
Au-delà d'être exemplaire,
c'est qu'il avait promis une république exemplaire.
Oui. Bah exactement.
Cynthia de Narbonne est en ligne avec nous. Cynthia, bonjour.
République normale.
Oui. Bonjour à tous.
On vous écoute.
Bonjour. Donc, je voulais réagir en fait sur le thème de la violence.
Oui.
C'est vrai que la France, elle est devenue violente, mais ça date pas d'hier. Vous voyez, moi, j'ai ma deuxième fille. Quand j'ai accouché le 13 novembre 2015, en rentrant de la salle d'accouchement, j'allume la télé et qu'est-ce que je vois partout ? Les attentats du 13 novembre. Et j'ai l'impression que les gens se sont réveillés à ce moment-là en disant « Oh, il y a de la violence, il y a des attentats. » Je suis née en banlieue, dans le 93, et je vous avoue que je vais avoir 40 ans cette année, ça date pas d'hier, la violence. Elle date d'il y a très longtemps. La seule chose, c'est qu'avant, on mettait un mouchoir dessus parce que ça touchait pas encore Paris, ça touchait pas vraiment des villes où il y avait des gens qui étaient, c'est important. Maintenant, elle se répand, donc forcément, tout le monde s'en inquiète. Mais pourquoi ? Ben parce que la violence, elle est là depuis toujours. Elle est à la télé, elle est dans les médias et on la montre en plus. On en fait un petit peu de la publicité.
Sauf que est-ce qu'il y a toujours eu de la violence, c'est certain. Est-ce que c'est la même violence ? Est-ce qu'elle se manifeste de la même manière ? Et est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas ce qu'avait annoncé l'ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, et ce que dit Le Monde aujourd'hui, c'est-à-dire deux France face à face, avec une haine des riches, avec une presque, ce matin on posait la question, des risques de guerre civile, avec des populations qui s'opposent ?
On avait déjà ça en banlieue il y a 20 ans. parce que moi, j'étais dans une banlieue, mais j'étais dans un contexte un peu plus privilégié. Mon père voulait être conseiller, voulait même être maire de notre ville. Il avait commencé à alerter la population sur le fait que si on était dans un contexte où il y avait une population qui était moins aisée et qui commençait à avoir une haine des personnes qui avaient la possibilité d'aller en vacances, de s'acheter des voitures, de s'acheter une maison. Moi, je sais que quand j'allais à l'école et qu'on me disait « Ah, mais toi, t'as une voiture », j'ai dit « Oui, mais bon, mon père, il travaille, il a une voiture de fonction, c'est pas à nous. » Il fallait toujours que je me justifie de savoir que pourquoi on avait des choses. Mais ça continue, c'est parce qu'il y a une haine déjà, parce qu'en France, on n'aime pas les gens qui ont plus que les autres. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai 3 enfants, on vit avec moins de 2000 euros, mon mari et moi, à 5. C'est très très difficile aujourd'hui, oui, les fins de mois. C'est pour ça que je comprenais le mouvement des gilets jaunes dans le sens. Mais le problème, c'est que le mouvement a commencé le premier jour. Je suis même intervenue sur votre radio dans Ça roule le 17 novembre pour leur dire, moi, ce mouvement, il me fait peur et je pense qu'il va pas finir bien parce que à peine je suis arrivée sur un rond-point et je leur ai dit, écoutez, je travaille. Est-ce que je peux passer? Non, non, non. Et puis pourquoi il y a toujours que les bonnes femmes qui sont jamais contentes? Ah, attendez, écoutez, je veux juste aller travailler. Non, ils ont commencé déjà par l'agression.
Merci.
Le problème, c'est que les gens, ils pensent que être agressif veut dire solution.
Voilà. Alors, je sais pas qui veut. Pierre-Jacques.
J'ai envie de réagir parce que ça fait écho avec un sondage qui a été diffusé, je crois, aujourd'hui dans le Figaro du Cevipof, qui fait part de toute la défiance qu'il peut y avoir vis-à-vis des élites. Et c'est des chiffres. Eux-mêmes, les sondeurs sont très étonné de voir la progression énorme du décalage qu'il peut y avoir entre le peuple et justement les élites. Et il y a un chiffre de ce sondage qui m'a frappé, c'est 74% des Français, enfin en tout cas des sondés, qui disent qu'aujourd'hui la politique qui est menée à la tête de l'État, elle n'est menée que pour une toute petite partie de la population. Ce qui renforce l'idée des inégalités, ce qui renforce l'idée de l'injustice sociale à laquelle on est confronté. Et je pense que c'est cette injustice aujourd'hui qui crée cette crispation, qui crée cette montée de la violence, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on a un gouvernement qui est totalement fermé justement à l'idée d'agir contre les inégalités, contre ces injustices, et que donc, tant qu'il n'y aura pas de réponse politique à ces injustices, à ces inégalités et à ce que vivent dans leur chair les Français
Mais il faut rappeler que les gens les plus aisés payent des impôts. On a l'impression que les riches...
Vous avez raison, c'est vrai, mais le sujet, et d'ailleurs il est mis sur la table de ce débat, c'est quand même la question de la réforme fiscale. On voit bien que notre système fiscal aujourd'hui ne permet pas de répartir les richesses telles qu'on devrait les répartir. Aujourd'hui, on crée plus de richesses qu'on créé il y a encore 30 ans, on l'a créé 300%. On dit qu'il n'y a pas de richesse dans notre pays. Il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de richesse dans notre pays. Il y a une richesse. Encore faut-il vouloir la répartir.
On a Mathieu. Mathieu, bonjour.
Bonjour Valérie, bonjour à tous. Oui, donc pareil, pour réagir par rapport à la violence, j'entends dans vos propos néanmoins intéressants, de vos chroniqueurs, un certain étonnement et effarement face à cette nouvelle violence. Et là, j'abonde un peu dans le sens de l'auditrice précédente, par rapport à la violence qui serait nouvelle. Et j'entends même le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur parler de jamais vu auparavant, en évoquant les scènes de violence contre les policiers qui ont été filmées par les chaînes d'information. Je trouve qu'on est vous êtes tous un petit peu en train de découvrir la Lune, excusez-moi, mais je vais être très factuel. Je vous rappelle un tout petit peu certaines choses qui me viennent à l'esprit. Par exemple, lors des derniers défilés du 1er mai à Paris, où des violences inouïes ont eu lieu, même sous des policiers assez statiques qui ne voulaient pas intervenir sur des personnes agressées, des voitures brûlées, des scooters lancés contre des vitrines, j'en passe et des meilleurs. Vous vous souvenez des 2 policiers, je crois que c'était à la Grande Borne, qui avaient manqué de griller dans leur voiture suite à l'envoi d'un cocktail Molotov, et c'était grâce au sang-froid d'un des policiers qui a réussi à sortir sa collègue à la dernière minute. Vous vous souvenez de cette policière jeune, piétinée et traînée par terre par des voyous dans une banlieue d'Île-de-France, un 31 décembre au soir, avec une film qui avait tourné sur les réseaux sociaux et qui avait fini par être évoqué par les médias généralistes, où ce CRS transformé en bombe humaine, en torche humaine, pardon, à Paris, lors de manifestations qui avaient fait aussi le tour des images.
Mathieu, juste une réflexion. Je mets des guillemets, ce sont des faits divers, ce sont des affrontements. Je vous parle de violence contre les institutions, contre les politiques.
Non, ce ne sont pas des faits divers. Ce sont des choses très graves qui se passent en banlieue depuis 20 ou 30 ans, c'est-à-dire des policiers, des gendarmes, des pompiers, des médecins qui ne peuvent plus circuler.
Il représente
la République.
Si je me permets, Mathieu, pardonnez-moi.
Attendez, laissez-le terminer.
Votre chroniqueur, je ne sais plus qui, disait tout à l'heure, il n'y a pas de démocratie sans force de l'ordre.
C'est
il
incroyable.
Avait raison. Et il disait, moi je vis en République, il a raison. Enfin, il a raison à la nuance près, c'est que aujourd'hui, les lois de la République ne s'appliquent pas partout sur le territoire en France. Il est compliqué
bien
dans
sûr.
Certaines zones de vivre sa confession juive, d'être oui. un couple homosexuel, d'être une jeune fille qui s'habille en mini-jupe. Et cette violence-là qui existe depuis 20 ou 30 ans, c'est aussi en germe de la violence qui apparaît maintenant. Parce que si on avait coupé court il y a 25 ans à cette violence-là, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui.
Non, mais c'est juste ce que vous dites,
juste,
Éric Revel.
C'est moi qui parlais de... Enfin, qui avait émis l'idée qu'on ne pouvait pas vivre en démocratie si on n'avait pas des forces de l'ordre, appelons-les comme ça, pour faire respecter le cadre démocratique. Mais à mon sens, on ne découvre pas la violence. Aujourd'hui, vous avez raison de rappeler tous ces exemples, mais il y a quand même, à mon sens, une grande différence. C'est qu'on s'en prenne aux forces de l'ordre, ça, c'est absolument pas nouveau. Ils sont en phase de mouvements parfois extrêmement violents, donc cette violence, ils en sont parfois les victimes, parfois les agissants. Mais pour moi, la situation est quand même bien différente des exemples que vous avez pris, parce que quand on enfonce un secrétariat d'État avec un moyen de chantier, quand on mure des permanences, quand on traite des députés comme si c'était des voyous de grand chemin, et que les menaces de mort
se multiplient,
là, vous voyez, on n'est plus dans une violence, j'allais dire manifestant violent face à forces de l'ordre qui sont violentes ou qui ne le sont pas. On est sur une violence qui touche les institutions, et Valérie avait raison de le rappeler, et là, c'est quand même, à mon sens, assez nouveau en ce moment, même si historiquement, il y a eu des mouvements qui ont entouré l'Assemblée nationale, on s'en souvient, et qui voulaient aussi prendre le pouvoir. Donc c'est en ce sens que je disais que la violence est un peu différente de ce qu'on a connu, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les institutions sont attaquées et que donc on doit se poser une question sur la visibilité de notre République.
Oui. Pierre Jacquemin.
Parce que le Premier ministre, quand il s'est exprimé pour nous expliquer qu'il allait faire une nouvelle loi sur la sécurité pour renforcer le dispositif de sécurité, en fait, il fait la démonstration qu'aujourd'hui, le dispositif ne serait pas suffisant. Et donc, à partir de là, aujourd'hui, il s'extrait de toute responsabilité politique, justement, de faire des propositions. Il a pris un risque énorme. C'est-à-dire que si demain, on retrouve les violences qui ont été celles qu'on a vues ces dernières semaines, il prend un risque colossal. C'est-à-dire que ça veut dire qu'ils sont dépassés. Même vous citiez la porte du ministère qui a été défoncé. Enfin, excusez-moi, mais autour d'un ministère, normalement, c'est quand même hyper sécurisé. Mmh. Comment se fait-il que ce tracteur ait été devant le ministère ? À un moment donné, il y a aussi un problème de, encore une fois, d'amateurisme.
Vous sous-entendez qu'en fait...
Je ne sous-entends rien du tout. Je dis juste qu'il y a beaucoup d'amateurisme.
Exprès pour que le mouvement soit encore moins...
Vous ne m'avez pas entendu dire ça, je ne suis
non,
pas
non,
un conspirationniste. Non,
mais je voulais savoir ce que vous sous-entendiez.
Je m'étonne de l'amateurisme.
Ça pourrait peut-être les arranger.
De voir aujourd'hui, écoutez, quand même, vous connaissez quand même le quartier des ministères, c'est quand même hyper sécurisé. Vous ne rentrez pas comme ça facilement, même si vous êtes 15, vous ne rentrez pas à proximité d'un ministère parce qu'il y a les forces de l'ordre qui sont présentes.
Oui.
Donc, encore une fois, s'il y a encore des faits de violence, il faudra les dénoncer sans doute et il n'y aura pas de sujet, je serai le premier à le faire. Mais à un moment donné, il va falloir que le gouvernement prenne ses responsabilités. S'il n'est pas à la hauteur, s'il ne sait pas gérer une situation comme celle-là, si ce n'est en répondant
comment on gère la violence,
la démocratie, soit ça veut dire qu'à un moment donné, on sera obligé de revenir par le vote. Et le vote, ça peut être soit effectivement un référendum sur des propositions que le gouvernement serait en capacité de proposer après le débat, soit à un moment donné, il explique qu'il n'est plus en situation gouverner.
Sauf que là y a pas, on ne peut même pas attendre le grand débat, puisque les Gilets jaunes...
Moi, je ne crois pas que ce grand débat ira à son terme. Ça n'est pas possible dans les conditions dans lesquelles on évolue aujourd'hui.
Virginie Le Guay.
Moi, je voudrais revenir sur le niveau d'exaspération. Il n'est pas né avec Emmanuel Macron, mais il saute à la figure d'Emmanuel Macron parce qu'Emmanuel Macron avait promis, lui, de gouverner autrement, de répondre aux insatisfactions des électeurs venus de la droite et de la gauche, de tenir ses engagements.
Vous avez raison de rappeler tout à l'heure, son livre s'appelait « Révolution ».
Exactement. Donc la révolution qu'il a promis, mais la révolution, elle était dans sa façon de faire de la politique, dans sa façon de recréer une France où les gens se parleraient, où les gens se comprendraient. Je pense que la désillusion a été si forte et elle est arrivée si vite que c'est pour ça que la colère lui explose à lui, même s'il n'est pas directement responsable des renoncements de, pour ne remonter qu'à lui, Nicolas Sarkozy ou François Hollande. Mais voilà, 40 ans de frustration et un jeune président de la République de même pas 40 ans, je crois qu'il avait 39 ans quand il a été élu, qui arrive très sûr de lui en disant « Avec moi, vous verrez, ça sera différent ». Et ben voilà, la colère, la rage, l'amertume sont là.
Moi, je voudrais dire un mot pour défendre la police, parce que dans l'histoire et dans les régimes dictatoriaux ou pas, la police est aux ordres du gouvernement.
Du préfet d'abord.
du préfet, mais enfin des autorités.
Oui.
Hein, c'est
oui.
pas eux-mêmes qui, parce que ce sont des gens peut-être fachos,
ils
qui
obéissent
veulent,
aux consignes qui leur ont été données chaque matin
parfois,
avant les manifs.
Et parfois, les gens qui manifestent, ils manifestent ben, pour leur bien-être, pour leur liberté, etc. Je veux pas faire de parallèle, mais il faut pas oublier aussi cet aspect-là.
C'est-à-dire,
je comprends pas ce que ça veut dire.
Ben, si vous voulez, il y a des gens qui se révoltent.
C'est trop malin
moi, je pense
pour moi.
J'ai vu un film, enfin j'ai revu un film sur l'Afrique du Sud, sur Nelson Mandela, où la police était aux ordres du gouvernement de Klerk face à des Noirs qui étaient maltraités. Ben, ils se sont manifestés, la police enfin, a joué, etc. Pas, je ne fais pas de parallèle, ah ben mais non, je veux dire, que la police est aux ordres. Donc c'est pas la police qu'il faut mettre
on,
en cause.
On n'est pas sous un régime pinochien quand même. Enfin, attendez,
parfois,
là,
je ne dis pas qu'on est dans une dictature, mais malgré tout, s'il y a une révolte autant profonde, je ne parle pas seulement des Gilets jaunes, mais d'une grande majorité de population qui n'est pas la plus déshéritée, c'est les gens qui travaillent, mais qui n'arrivent pas de finir leur fin de mois, qui se révoltent à ce point-là, soit dans les Gilets jaunes, soit par un mécontentement général, puisqu'il y a encore 52% des gens, si j'ai bien compris le dernier sondage, qui soutient, bon, qui veulent poursuivre.
Les sympathisants.
C'est quand même, malgré tous les... J'attaque pas les médias, mais toutes les informations sur la violence, on en parle aujourd'hui, ça fait peur. Donc en général, les gens... ça fait marche arrière, d'ailleurs. Je vous rappelle, en 1968, le général de Gaulle qui part, hein, et puis qui revient. Il y a une grosse manifestation d'un million. Et aux élections, on a vu ce que ça donnait. On n'est pas encore dans ce niveau-là. Donc, il faut aussi penser à ça, en disant qu'il y a une justification de ces gens qui sont malheureux depuis longtemps, et ce n'est pas la faute de M. Macron en particulier, mais tous les autres d'avant. Une police qui est aux ordres, mais le vrai responsable, c'est les autorités. Alors, s'il se trouve que c'est Macron aujourd'hui, mais il ne répond à rien. Et ce n'est pas le débat en deux mois.
Il répond à rien.
Il a répondu. Enfin, moi, je ne veux pas penser que ce débat, qui n'a même pas commencé.
Laissons
sa chance au débat. Il n'a même pas commencé.
Avec des maires, même le numéro 2 des maires, qui n'est pas tellement favorable.
C'est mon côté optimiste. Laissons-le vivre, ce débat. Espérons même qu'il va aller jusqu'à son terme et qu'il va produire quelque chose.
Mais alors qu'il annonce une réforme sur les statuts de la fonction publique, sur les retraites.
Oui.
Et enfin, les gens n'ont pas encore vu les salariés. Moi, je l'ai vu en tant que retraité. Bah, déjà, j'ai baissé de 10% ma rémunération. Enfin, mais c'est
ce qui vaut. Mais vous l'auriez payé de toute façon.
Oui.
C'est pas de l'argent qu'on vous prend.
Mais quand vous avez 1000 euros net par mois et que vous payez les impôts.
D'accord, mais vous les auriez payés à un moment ou à un autre, vos impôts.
Je suis d'accord. Mais psychologiquement, avec tout ce qui se passe, ça ne va pas arranger. Et quand on annonce cette réforme de la fonction publique dans un certain sens, plus les retraites. Bah ça s'annonce pas bien.
C'est
des réformes qui étaient prévues.
Allez, on va y revenir. On marque une toute petite pause. Restez avec nous. 0826 300 300.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. On est en direct avec Éric Revel, Virginie Leguet, Pierre Jacquemin et Jean-Luc Touly. Alors, juste avant le journal, la petite interruption, vous évoquiez le prélèvement à la source qui est source d'inquiétude. Éric, vous disiez que
c'est super important. Et oui, parce que, alors je vais pas faire l'économiste que je suis et ressortir ma pseudo-science, mais c'est très très important, même si ça passe un peu sous les radars pour l'instant, parce que l'actualité d'ailleurs, c'est que vous savez, en France, l'économie française, par rapport à l'économie allemande, par exemple, elle est basée sur la consommation des ménages. L'économie allemande, c'est les exportations. Bon, eh bien, le prélèvement à la source va avoir un effet psychologique extrêmement dépressif sur ce qu'on appelle l'effet richesse, c'est-à-dire que même si les impôts auraient été payés ou par tiers ou mensuellement, le fait qu'on les prélève, les gens vont avoir l'impression qu'ils ont et ils auront en temps réel moins d'argent, donc ils vont consommer moins. Et si on consomme moins, c'est ce moteur essentiel de la croissance française qui va ralentir ou qui m'a même déprimé. Et quand il n'y a pas de consommation, il y a encore plus de chômeurs. Voilà. C'est quand même une vraie...
Sans parler des erreurs, avec la confiance que les gens n'auront plus, quoi, en disant qu'on va prélever plus que la normale.
Disons que ça tombe au plus mauvais moment. Politique pour le gouvernement. Le plus mauvais moment.
Benoît est en ligne avec nous. Bonjour Benoît, vous nous appelez Détempe.
Oui, c'est ça, bonjour.
Bonjour. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire ?
Je voulais vous dire que j'écoutais l'antenne et j'étais un petit peu scandalisé par certaines choses, certains points de vue, un point de vue un peu qui valide un peu toujours les mêmes discours, c'est-à-dire ceux des puissants, Castaner, Schiappa, etc., Griveaux, sans vraiment mettre en cause ce qu'ils disent, jamais. Et au contraire, mettre un temps quand même, beaucoup de temps à débattre sur, par exemple, ce qu'a pu... commettre comme méfait le boxeur, par exemple, chose qui restera assez peu quand on fera le bilan du mouvement, c'est, ça restera de l'ordre du fait divers. Et d'ailleurs, vous mettiez, vous n'avez parlé de fait divers pour parler de choses qui pour moi n'en sont pas, à savoir que quand des policiers sont agressés, vous avez parlé de policiers qui brûlaient, de policiers qui étaient agressés dans leur voiture, etc. Et ça, vous avez un petit peu passé vite. Alors que si on met en balance l'intervention du fameux boxeur, franchement, je trouve qu'il y a quand même deux poids, deux mesures, y compris, pareil, l'intervention de Benalla au premier mai, qui pour moi relève vraiment d'une vraie violence, une violence en plus qui est cautionnée par les ministres, par le président de la République, et là on vous entend assez peu critique quand même.
C'est
un peu scandalisé.
Non, ben on l'a évoqué, Jean-Luc Touly l'a évoqué, toute la parole est variée et libre sur Sud Radio, donc Jean-Luc Touly l'a évoqué, ce deux poids, deux mesures. Quand je parlais de faits divers, ne vous méprenez pas, je pense qu'on parlait de c'était, j'ai mis des guillemets parce que c'est peut-être effectivement pas le bon terme, mais c'est de la délinquance. Là, on est dans d'autres mobiles et dans d'autres choses qui sont pas comparables. Enfin, qui ne sont ni assimilables ni comparables,
oui,
Pierre-Jacquemin.
Votre auditeur a raison de dire quand même, ou en tout cas c'est ce que sous-entend, je pense, son intervention, de dire qu'à un moment donné, certes, il faut sans doute expliquer, commenter la violence, mais il faut aussi rappeler qu'on est là face à un mouvement spontané dont l'immense majorité des gens sont extrêmement sincères, sont mobilisés sans doute d'ailleurs pour la première fois de leur vie, pour la plupart d'entre eux, et qu'ils ne sont pas violents, et qu'ils n'attendent que des réponses, et face à ces réponses, ils n'ont qu'un autisme du gouvernement, et que donc du coup, face à ça, et bah, oui, forcément, ceux dont on entendra le plus parler. Il y a ceux qui se démobilisent parce qu'ils voient que rien ne bouge et ceux qui continuent de se mobiliser, et c'est ce qu'on appelle la radicalisation d'un mouvement. Mais la majorité des gens sont...
Un film sur
les gilets jaunes. Oui, sur les gilets jaunes, absolument.
Point et des gilets jaunes,
ouais. Oui. On a en ligne avec nous Dominique de Toulouse. Bonjour Dominique.
Bonjour, comment allez-vous?
Très bien, très bonne année à vous. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire?
Alors, moi, ce que je veux dire, je suis entrée en France il y a 3 ans. J'ai pas vécu en France toutes ces dernières années et je viens de vivre dans une dictature. Et en fait, pour moi, les manifestations, etc., c'était quelque chose d'assez courant. Je l'ai vu en France avec une grande surprise quand même. Cette violence, je l'avais jamais vue ici. Même pendant mes études où nous manifestions les étudiants, ça n'avait jamais pris une telle ampleur. Alors il y a plusieurs choses.
Vous étiez dans quel pays Vous étiez dans quel pays, Dominique ?
Au Venezuela.
D'accord, oui, effectivement. on peut dire dictature. Ouais.
Et donc
vous êtes choqué rapidement parce qu'il nous reste il nous reste assez peu de temps. Vous êtes choqué quoi ? Par la violence ? Par quoi ?
Je suis choquée par le manque de pudeur des hommes politiques. Je suis choquée par leur salaire. Je suis choquée par leur incapacité quand une députée ne sait pas combien est le SMIC. Je suis choquée par cette déconnexion et donc le résultat est forcément la violence puisque le peuple ne se sent plus représenté par ces hommes et ces femmes. On est bien obligé d'essayer de se faire entendre parce qu'en plus ils sont tout à fait surémués, ils continuent à faire des lois, continuent à passer des mesures qui sont totalement négatives. Si on prend un salaire d'une infirmière ou d'un prof qui remplit son rôle dans la société et on prend le salaire de Balkany, franchement je suis un petit peu choquée que cet homme-là soit pas en prison. Pourquoi? Pourquoi ces gens ne sont pas, pourquoi tous ces gens qui sont, ils ont tous d'ailleurs quand on les prend un à un, ils ont tous des affaires. Et c'est choquant, alors que toi, pour aller travailler, tu dois présenter un casier judiciaire vierge.
Ouais. Merci Dominique, on vous a entendu, on vous entend, on entend depuis le début de la semaine, toute cette semaine, alors sur l'antenne de Sud Radio, ce ras-le-bol, vous dénoncez ce deux poids, deux mesures, et je ne sais pas, et le grand accusé, et les grands accusés, ce sont nos dirigeants, Emmanuel Macron, et ces ministres qui ne répondent pas. Alors,
c'est la une du monde, oui. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est vrai que c'est la une du monde, c'est ces deux France qui se regardent, cette petite France d'en haut.
Mais quelle réponse, quelle réponse?
Mais la réponse, elle se situe sur le terrain politique, encore une fois. Et je pense qu'Emmanuel Macron a raison de dire qu'il faut qu'il y ait un grand débat. Mais surtout, le débat, il doit être global. Il doit être avec les organisations syndicales, il doit être avec les parlementaires, avec les élus locaux. Et puis, les citoyens, s'ils ont envie de s'exprimer, ils ont cette légitimité-là. Aujourd'hui, les Gilets jaunes, c'est Emmanuel Macron qui a rendu la légitimité aux Gilets jaunes en accédant à leur demande.
Juste une phrase, ces deux France qui se regardent, elles étaient déjà présentes lors de l'élection présidentielle. Il suffit de se souvenir de la carte électorale du second tour et entre le vote Marine Le Pen et le vote Emmanuel Macron. Et le tort d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir oublié qu'il a été élu j'allais dire fragilement, et qu'au premier tour, si on fait l'addition des voix de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen, il y avait déjà une colère très forte, et qu'il n'en a pas tenu compte.
40%.
Bon. Merci à tous les quatre, à suivre André Bercoff. Très bon week-end, on se retrouve lundi.